Et alors nous allons prendre la deuxième partie de Rachid. Si vous voulez le lire d'abord dans la traduction officielle que vous avez. Alors je vais le lire avec vous. Alors nous lisons d'abord le verset 15. Et la dernière fois, vous savez, nous avons appris la raison pour laquelle, dans la première partie du verset 14, il y avait Élie à se réjouir, donc la répétition du mot Élie. Et puis, à la fin du verset, il y a seulement Élie, c'est-à-dire une seule fois. Et nous avons vu l'explication de Rachid, qui se réfère au fait que l'expression de la première partie du verset indiquerait déjà un nouvel exil, et qu'une annonce de ce genre au moment de la délivrance d'Égypte ne serait pas supportée par les Hébreux et aurait donc handicapé leur volonté de sortir d'Égypte à ce moment-là. Et nous avons vu ça en détail, je ne reviens pas sur le détail du problème. Et c'est la raison pour laquelle, alors que Moïse demande le nom qu'il doit donner comme mot de passe, comme nous avons vu en ce temps-là aux Hébreux, Dieu lui répond avec un mot qui ne désigne pas son nom, mais son essence, son être. Je ne laisse pas. Bien. Et nous verrons aussi ce problème, parce que c'est pas tellement facile. Et il y a une première réponse, donc, qui concerne cette situation. La sortie d'Égypte est anticipée, elle se fait en un temps antérieur et temps prévu, et par conséquent, Moïse s'est trouvé être obligé de donner l'habilitation de sa mission, le fait qu'il est vraiment envoyé authentiquement par Dieu à ce moment-là, de donner ce signe en même temps qui est bien plus avancé que l'état attendu par les Hébreux. Il est donc obligé de donner un nom qu'on attend à la fin des temps, de le donner déjà maintenant. C'est bien clair? Alors c'est pourquoi dans la première partie du verset 14, Dieu lui dit, et il y a chérie, je serai avec vous maintenant. C'est que de toute façon, je serai avec vous, pour vous à la fin des temps. Je ne reviens pas sur l'analyse de cette expression, mais ça implique en tout cas qu'il y aura donc encore une distance de temps et de durée entre le moment où Moïse doit délivrer les Hébreux d'Égypte et cette fin des temps. Et cette durée, c'est donc, implique nécessairement l'éventualité d'un nouvel exil. Et la difficulté pour Moïse, c'est que Russe, il est de se heurter à une certaine résistance en dévoilant, ne serait-ce que par implication, que la sortie d'Égypte, c'est bien la sortie d'Égypte, mais qu'il devrait y avoir encore un autre exil avec une sortie définitive. La résistance, enfin, pourrait être formulée de la manière suivante. Si de toutes les façons, il faudra repartir d'Israël pour aller de nouveau en exil, alors autant rester là et attendre la fin des temps sans ce voyage provisoire. Oui, il n'y avait pas. Alors, si vous voulez d'ailleurs, avant de voir le verset 15 et le deuxième rachis que vous avez dans le texte, est-ce que vous avez une question malgré tout pour tout ce qui s'est passé? Non? C'est bien clair? Bien. Et je dois quand même vous dire, je suis vraiment assez gêné de l'ampleur que ce cours a pris, parce que le sujet choisi est quand même assez précis, c'est de l'exégèse, alors je me demande s'il ne faut pas prendre des textes plus faciles, peut-être. Ou alors vous demandez beaucoup de patience, parce qu'en une heure par semaine, on peut voir que des petits morceaux de morceaux. Finalement, c'est qu'on dit. Alors, au verset 15, il y a une nouvelle formule qui donne à Moïse. Dieu dit encore à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. Le Seigneur, en hébreu, ça veut dire celui qui est Dieu. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom à jamais. Telle sera mon invocation dans tous les âges. Bon, ça c'est la traduction que vous avez dans vos livres. Déjà, rien que le style vous montre que c'est pas très clair. Alors en tout cas, lisons Rashi. Rashi intervient sur la fin du verset. J'ai chemi le olam. J'ai juste le d'or. Tel est mon nom à jamais. J'ai chemi le olam. Les Égyptiens de Dordo, telle sera mon invocation dans tous les âges. Alors vous avez deux mots hébreux que nous allons reprendre. Vécheli, ça veut dire tel est mon nom. Et Vézéchri, on vous a traduit tel est mon invocation. Alors en ce qui concerne le premier mot, Sheli, c'est le mot hébreu de Shem. Alors nous allons nous demander qu'est-ce qu'il désigne dans le début du verset. Est-ce qu'il désigne le mot que nous lisons Adonai Eloke Avotechem, le Seigneur, le Dieu de vos pères, ou bien est-ce qu'il désigne l'expression le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Si vous voulez, il y aurait une méthode facile et immédiate pour comprendre ce qu'il y a à la fin du verset. Quel est mon nom à jamais? Telle sera mon invocation dans tous les âges, et diviser la première partie du verset même en deux. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, serait mon nom, et mon invocation serait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui? C'est bien clair? En tout cas, j'ai la différence des termes, en français déjà. Mon nom, c'est-à-dire le nom que j'ai, de façon, et qui désigne, si vous voulez, mon être, mon essence. C'est ce qui résulte de la lecture du verset précédent. C'est bien clair. Oui. Et l'invocation, c'est-à-dire la manière dont on prononce l'invocation que l'on fait de moi, c'est-à-dire l'allusion que l'on fait de moi lorsqu'on parle de moi. Et ça serait l'expression Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Bon, voilà, c'est une première manière de voir le sujet. Alors, je vous lis le verset, en hébreu et en français. C'est donc le verset 15. Vayomero de Elohim el Moshe, et Dieu dit encore à Moïse, Kotomar el Bene Israël, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, Adonai, et c'est donc pas écrit Adonai, c'est écrit sous la forme du nom qu'on ne prononce pas. Alors vous suivez, vous n'avez pas le texte hébreu. Alors suivez ce texte hébreu. Adonai, Eloé Avotechem, Dieu de vos pères, Eloé Abraham, Dieu d'Abraham, Eloé Israël, Eloé Yaakov, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Shelachani Alechem, envoyé vers vous. Recheni le Olam, ceci est mon nom à jamais. Donc, la première partie de cette définition, ceci est mon nom, c'est le nom Adonai. Le Zézéchli et Dodo, et telle est mon invocation, c'est-à-dire la manière dont on invoque, dont on parle de moi, c'est-à-dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. C'est bien clair. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Je n'ai pas dit que c'était comme ça qu'il fallait comprendre. Mais c'est une première lecture du verset qui est simple. C'est bien clair, oui? Encore une fois, Moïse a demandé à Dieu de quelle manière il doit parler de lui au moment où il s'adresse aux Hébreux en Égypte. Donc, verset 14, que nous avons étudié dans les cours précédents, eh bien, va leur dire que de toutes les façons, je serai maintenant avec eux ce que je dois être à la fin des temps, et au fond, ils attendent maintenant le signe de la fin des temps. Mais ceci implique qu'il y aura donc une fin des temps, donc un exil entre-temps, et par conséquent, Moïse craint d'avoir une certaine résistance, alors Dieu lui dit, va leur dire simplement ceci, fin du verset 14, je serai avec eux, sous-entendu maintenant. C'est bien clair. Et ça, c'était le mot « Ehié », je serai. Or, Moïse avait demandé au verset 13, quel est ton nom? C'est-à-dire, quelle est la manière dont je dois m'exprimer en parlant de toi pour qu'il soit assuré que c'est bien de ta part que je viens? Alors que Dieu lui répond en désignant son être et en disant en quelque sorte, de toute façon, je serai ce que je suis, je serai moi-même. C'est-à-dire, j'accomplirai les promesses que j'ai faites. Bien. Et oui, nous avons ce verset 15. Où Dieu dit à Moïse de nouveau, et puis va dire aussi ceci aux enfants d'Israël, c'est Adonai, mais c'est écrit ainsi, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'envoie vers vous. Et fin du verset, tel est mon nom à jamais, et cette première partie de la fin du verset semble se référer donc à ce mot, Adonai, Eloé Avotechem, et quelle sera mon invocation, c'est-à-dire la manière dont on m'invoquera, d'or, c'est-à-dire à chaque génération, de génération en génération. Dans tous les âges, si vous voulez, mais enfin c'est trop littéraire, ça risque de nous gêner. Et donc la deuxième partie de la fin du verset désignerait l'expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Oui. Et il semble effectivement que ce soit la lecture la plus simple du verset. C'est-à-dire il y a le nom de Dieu avec cette difficulté. que c'est le mot qui désigne son essence, et ce n'est pas exactement ce que Moïse demandait. Hein? C'est bien clair? Moïse demandait sous quelle modalité je dois parler de toi, de telle sorte qu'ils comprennent que c'est en libérateur que tu viens, et non pas, par exemple, en souverain, ou en juge, ou en providence, mais en libérateur. Et ce nom qui désigne que Dieu est libérateur, ne peut être donné qu'à la fin des temps. Est-ce que c'est clair? Oui. Et la manière dont Dieu charge Moïse de dire cela impliquerait que la fin des temps est beaucoup plus tard. Et cette promesse que Dieu sera avec Israël à la fin des temps, mais déjà maintenant comme il sera à la fin des temps, risquerait de faire comprendre qu'entre-temps il doit y avoir un exil supplémentaire. Ce qui de toute façon a eu lieu. Hein? Et Moïse craint que cette annonce m'inquiète trop les autres. Et voilà qu'au verset 15, Dieu révèle, Dieu dit à Moïse, il dit que la façon va leur dire, c'était Adonai, celui qui est reconnu comme Dieu par leur père, Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui m'envoie vers vous, de tout. Et dit-leur ceci, j'ai chemis le Olam, ceci est mon nom pour l'éternité, les Ezirchi, les Dordo, c'est la manière dont on fait allusion à moi, à chaque génération. Alors nous pouvons donc comprendre de la manière suivante, enfin, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que le mot celui qui est le Dieu de vos pères, Adonai Yireh Avotechem, ça veut dire mon nom, et Dieu d'Abraham, de l'Isaac, Dieu de Jacob, ça signifie la manière dont on fait allusion à moi, à chaque génération. C'est clair? Bon, alors nous allons lire Rashi, et Rashi va nous parler de tout à fait autre chose. Alors, lisons d'abord Rashi, dans la traduction que vous avez, verset 15, tel est mon nom à jamais. Le mot Leolam, c'est le mot hébreu. Et qui signifie, littéralement, qui signifie tant que dure le monde. Olam, on le traduit par monde, mais en hébreu, ce terme a un sens de durée. Olam, ça veut dire la durée du monde. Alors on a l'habitude de traduire à jamais ou pour toute l'éternité. Alors Rashi nous dit, ce mot Olam, en réalité, dans le verset, est écrit sans le vav. C'est-à-dire, cette lettre dans laquelle on dit oh, tout ça. Et c'est écrit comme ça. On est voyant parce que la vocalisation va changer. Rashi nous dit, le mot Olam, c'est normalement nous disons pour tout le temps que dure le monde, à jamais, il y a écrit sans le vav. Alors il en résulte qu'il faudrait lire le halem de manière à être le halem pour le dire, tiens le cachet, afin qu'il ne soit pas prononcé comme il est écrit. Je pense qu'on est en train de m'apercevoir que vraiment ce texte est très difficile de voir ça. Hein? Non? Pas très difficile? Bon, ben vous avez du courage. Et si on pouvait rester jusqu'à 11h du soir, ça irait encore, mais moi je ne sais pas. Comment? Ça, vous n'aurez jamais le temps. Bien, oui, qu'est-ce que je disais? Donc, ce mot-là est écrit sans le vav, et par conséquent, il va se dire le halem, parce qu'en fait, en hébreu, la racine. Cette racine, Aïn Lamadé, même, d'où vient d'ailleurs le mot Olam, lui-même, cette racine Aïn signifie caché. Plus que caché d'ailleurs. Caché de telle sorte que ça ne soit même pas deviné. Aïn, ça veut dire occulté. Néalam, oui. C'est l'adjectif Néalam. Bien. Et Rashi explique, j'ai chemis le Aïn. Voici mon nom pour le cacher. Alors normalement nous devrions lire voici mon nom pour le monde, ça dira jamais, pour toujours. Mais voilà que c'est écrit de telle sorte que nous devrions plutôt lire Véchemi le Halem, voici mon nom pour le cacher. Et qu'est-ce que ça veut dire voici mon nom pour le cacher? Ça veut dire écris-le d'une manière différente de la manière dont il doit être lu. Bon, alors nous allons partir de là. Relisez quand même avant cela la tradition littérale. Zé Chemi Garolam, voici mon nom à jamais, ça veut dire tant que durera le monde. le mot l'Olam est écrit sans la lettre A pour dire les Alem, c'est-à-dire cachez-le, c'est-à-dire Rachid. Hein? De telle sorte que ne soit pas lu ce qui est écrit. Bien, alors en fait, dans les livres de la Torah, ce nom est écrit de cette manière-là. Je vais vous donner un coup à la place du nez, parce qu'on n'a pas le droit de l'écrire. Et quand on va le passer, on a le droit de l'écrire que c'est le fait de la Torah. Et donc on a l'habitude d'allonger cette partie du nez, de telle sorte qu'on fasse un coup. Bon. Alors, c'est écrit ainsi, mais on le lit tout à fait autrement. On le lit à l'élan. Alors, je vais vous expliquer comment on le lit. Je vais traduire donc le mot Adonai. Adonai, ça veut dire mon Seigneur. C'est pourquoi vous avez dans les traductions le Seigneur, chaque fois qu'il y a ce mot-là. Alors, je vous ai fait une parenthèse là-dessus tout à l'heure, du point de vue des traductions. Il n'y a pas dit que la notion est exacte. C'est-à-dire, dans la tradition juive, la lecture de ce mot qu'on ne prononce pas se fait par un mot qui signifie Seigneur. Le Seigneur, ça veut dire souverain. Hein? Le mot Adonai, vous l'avez, le Seigneur, devrait être plus exactement, mon Seigneur, celui que je reconnais comme mon Seigneur. C'est clair ? Alors, qu'est-ce que veut dire Seigneur ? Ça veut dire souverain. Je reconnais comme mon maître. Mon maître, pas dans le sens de professeur, dans le sens de roi. Non, de roi. Adon. Hein, Adon, c'est le prince, hein, le roi. Pardon ? Non, parce que Amélias, le Mélias,
réellement détient le pouvoir. Adam est le Seigneur, il détient le pouvoir, un pouvoir réel, alors que
Mélène
est une forme
élégante,
pas une forme, une expression
politique. Non, non, non. Oui, Dieu est aussi appelé Mélène. Non, ça, c'est pas la réponse. Seulement, le Mélène, c'est la souveraineté qui dépend de la reconnaissance de cette souveraineté par le sujet. Tandis que Adam ne dépend pas de la reconnaissance par le sujet. C'est rien à dire. C'est-à-dire, l'expression connue, c'est « El Melech de l'Oham ». Il n'y a pas de roi sans peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Tandis que « Adon », ça veut dire « le souverain, quoi qu'il en soit okay ». Le mot de « Adon » désigne la notion de souveraineté. Okay. Alors, le mot de « on devrait dire « Adonis », mon souverain ». Comme on parle de Dieu, la forme est une forme qui n'est ni conjuguée ni plurielle. Parce que s'il y avait le pluriel, il y aurait Adonai avec un patard. C'est un pluriel. Un pluriel pour dire les souverains, il y aurait Adonai avec un patard. Il y a un tamas pour indiquer une toute autre forme, qui est la forme que l'on emploie pour s'adresser vraiment, si vous voulez, le pluriel de majesté, mais c'est pas un pluriel, puisque c'est un singulier. Est-ce que c'est clair ? Bon. Vous comprenez bien cela. S'il y avait un patard, alors on pourrait dire, comme disent les grammairiens, c'est un pluriel de majesté. Mais c'est pas un pluriel de majesté, puisque c'est pas un pluriel. C'est un singulier. Seulement, c'est pas un singulier qui s'adresse à un particulier. C'est un singulier qui s'adresse à Dieu. Alors il y a Adonai avec un travail. Vous y êtes ? Bon. Alors, en fait, nous avons donc dans les livres, dans la Torah, comme vous le savez, dans la Torah, il n'y a pas de voyelles. Enfin, dans les livres qui reproduisent le Sefer Torah, nous avons comme écriture ce mot et comme voyelle les voyelles du mot Adonai. C'est la raison pour laquelle vous avez ici le Torah, là le Torah et là le Torah. Pourquoi ici le Torah ? Parce qu'on met Sheva Patar sur le Aleph, mais sur le Yod, le Patar stop. C'est exactement ce que là. En réalité, la voyelle, c'est le Sheva. Mais si les halles, il faut mettre un patard avec les choses. Vous voyez, donc c'est simple, vous êtes. Mais c'est le français qui est compliqué. Non, en hébreu, ça va être ça. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons ce mot-là écrit avec ces voyelles-là, pardon, avec ces consonnes, mais ce ne sont pas des consonnes qui sont des voyelles, ces consonnes-là. Vous voyez, comme le français est compliqué. Mais, et avec, disons, les voyelles du mot Adonai. Alors il en résulte que, alors il en résulte que des exégètes qui ne savent rien vraiment du tout ce qu'ils lisent ont lu ce mot Jéhovah. Voilà, vous savez. C'est une grosse bourde des historiens des religions non juives. Et ils ne sont pas rendus compte de quoi ils parlent. Ils ont lu ce mot-là, comment dire, donc ils ne connaissent pas la prononciation. Puisque d'ailleurs, comme dit le prêtre depuis toujours, comme Dieu a dit à Moïse, on ne saura pas comment il faut les lire. Enfin, c'est tout ça. Pardon ? Il dit Jéhovah. Et oui, parce que vous savez, le livre majuscule, ils l'ont écrit comme ça, oui, dans leur alphabet. Et ensuite, ils ont lu des livres, on leur avait pas expliqué, alors ils ont cru que c'était un jeu, alors ils ont dit Jéhovah. Bien, non, je vous explique ça pour que vous compreniez d'où ça vient. Vous savez, c'est peut-être doc, on dit docteur, on ne sait pas quoi, hein, où on vous parle de choses vives, de choses de la Bible, de choses de tout ce que vous voulez, et on vous parle de Jéhovah. Alors vous pouvez expliquer, c'est un imbécile qui a écrit ça. Hein, enfin, vraiment un crétin fini. Il ne faut pas aller jusque-là. À moins que vous parliez des témoins de Jéhovah. Alors, vous voyez, c'est ce que bon, enfin bref, il faut tout faire un humain. Bien, alors voilà, en tout cas, c'est de là que vient, de ce que nous sommes en train d'étudier, que vient ce principe. Enfin, ce mot qui désigne le nom de Dieu est prononcé avec un autre mot. C'est bien clair ? C'est ce que nous dit Rachid. Rachid nous dit, je vais te donner mon nom, mais le halem, de manière que tu le cacheras. Et qu'est-ce que dit Rachid ? Ça veut dire, on va faire le livre comme il est écrit. Ça y est ? C'est bien clair, c'est tout le monde. Bon. Alors, le principe qu'il y a ici est enseigné par le Talmud de la manière suivante. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en dehors de son temps. Vous connaissez ce principe, hein ? Je vous rappelle, c'est une Mishnah du Talmud, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en dehors du temple. Oui. Et le mot qui signifie temple, c'est le mot Hechal. Oui, c'est le mot Hechal qui signifie le temple. C'est cet enseignement du Talmud qui est appuyé sur un verset de Habakkuk, de la prière du prophète Habakkuk, qui dit ceci, Hachem, donc celui qui est Dieu, de Echal Kocho, Hasmitana Kolare. Hasmitana Kolare. Et la signification de ce verset, c'est Dieu, dans son temps, dans le temps de sa sainteté, que toute la terre se taise. Elle avait le bras du salut. Quand Dieu est dans son temps, on peut parler. Parler quoi ? On peut juste dire son nom. Mais toute la terre en dehors de ce temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le nom de Dieu en dehors du temps. Bon. Et alors, la tradition talmudique a appliqué cette règle qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en dehors de son temps de cette manière. C'est-à-dire on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en dehors de son temps, et son temps, c'est le mot Adonai. Comment ? Eh bien, parce que le mot Adonai signifie la souveraineté de Dieu. Ça veut dire que je parle de celui que je reconnais comme mon souverain. Ça signifie donc qu'on n'a pas le droit d'invoquer le nom de Dieu en dehors de la catégorie de la souveraineté. On n'a pas le droit, je veux dire ça autrement, c'est ce qu'on est compris, on n'a pas le droit de faire allusion à celui qui est Dieu autrement qu'en le reconnaissant comme son souverain. C'est bien ? C'est bien clair ? Tout le monde a compris ? Donc, si je veux parler de Dieu, ben j'ai qu'à dire mon souverain. Alors, lorsque je dis Adonai, je parle de celui qui est Dieu, mais en tant que je le reconnais comme souverain. Parce que si je parle de Dieu sans le reconnaître comme mon souverain, dans l'évocation même, tout seul, c'est un affaire. C'est-à-dire, de quoi je parle, si je ne le reconnais pas comme mon souverain. Alors que je considère ça comme Dieu. Et je dis Dieu, alors ça ne signifie rien. Vous comprenez ? C'est bien fait ? Bon. Alors ça, c'est la règle rabbinique concernant la prononciation du nom de Dieu. C'est-à-dire, peut-être, désigne l'être de celui qui est. Mais on n'a pas le droit de le désigner en dehors d'une invocation qui implique que je reconnaisse sa souveraineté. C'est pourquoi, pour dire ce qui est là, je dis Adonai. Est-ce que c'est bien clair ? Oui ? Vous m'avez compris ? Bon. C'est ce que c'est. Elohim, c'est pas la tribu. Non, c'est plus simple que ça au fond. C'est le fait que je dirais une contradiction. Parlant de Dieu sans le reconnaître comme mon Dieu, alors je me contredis en parlant. Et il y a une grande règle de la Torah, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre quelqu'un dans le cas d'être en faute. C'est-à-dire qu'il y aurait un piège pour moi. Justement, c'est pourquoi c'est interdit. Le principe, c'est de l'ifné à hiver, l'hôpital n'est seul. On n'a pas le droit de mettre une pierre devant un aveugle. Par conséquent, on n'a pas le droit, enfin la Torah elle-même s'interdit de me donner un nom de Dieu dans une catégorie qui me mettrait moi en contradiction. Non. Quand je dis Elohim, je reconnais la souveraineté de Dieu. C'est un terme qui signifie que c'est Dieu qui a tous les pouvoirs. Hein? Le fait de dire Elohim, c'est une autre manière de reconnaître la catégorie. Je veux dire, il y a 10 noms employés par la Torah. Je vais signaler une fois. Ça, eh bien, 9 de ces 10 noms, dont le 10e d'ailleurs est le mois de l'âme, donc 9 de ces 10 noms signifient que je reconnais comme souverain, de différentes manières. Ici, Adam, je n'ai pas voulu vous traduire plus exactement. En tout cas, nous avons vu que ce n'est pas Meler. Hein, comme ça ressemble, ce n'est pas le mot de Meler. Meler, c'est une catégorie de souveraineté haute. La meilleure preuve, d'ailleurs, vient de penser, grâce à vous, comme on dit dans la prière du matin, Adon Olam, Asher Malach, de Terence le Seigneur. Adon Olam, Asher Malach, Adon et Meler, ce n'est pas la même chose. Meler, c'est la fonction. Mais. Je vais finir. Bien sûr. Je prends par exemple le nom de Tsevaot. Bon, dans le nom de Tsevaot, c'est de Dieu que je parle. Mais dans une catégorie, que je ne vous traduirai pas, parce que nous allons être là, dans une catégorie telle qu'effectivement je reconnais sa souveraineté. Bon, et finalement, c'est le mot de Adonai qui a été choisi, et c'est un de ces 9 mots dont on parle, autre que le mot de Shemalaya, et la tradition talmudique a institué que c'est avec ce vocable-là, Aleph, Dalet, Nun, Yod, que le nom de Dieu serait invoqué lorsqu'on est à l'invoque. Et la règle d'ordre religieux, ça veut dire que si je prononce ce mot, je me mets en contradiction. Ça veut dire que je désigne Dieu en son être comme s'il ne concernait pas la souveraineté qu'il a sur moi. Voilà. Et c'était bien clair. Hein? Sauf si c'est le grand prêtre dans le temple. Parce que là, il n'y a pas de tromper de qui on parle. De celui à qui on rend le culte dans le temple. Vous voyez? Oui. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les rabbins ne connaissent pas la prononciation de ce mot. Bien sûr. Bien sûr qu'on la connaît. Seulement, je voulais vous signaler en passant que c'est en tout cas pas Jéhovah. Ça, c'est une erreur qu'un enfant comme Mithéra ne fait pas. Et quand il a fait, c'est quelque chose de pourri. Hein? Bien. Alors, je vous parlais tout à l'heure du mot de Adonai. La racine de Adon, en hébreu, c'est une racine qui signifie que c'est la relation de souveraineté du maître, non pas dans le sens de magistrat, mais dans le sens de celui qui est plus que moi. C'est le latin maximus. Hein? Et effectivement, le mot de Adon peut être considéré comme le superlatif du mot de Adam. Et on veut le même du mot de Adam, et mettez on à la place, ça fait Adon. Vous voyez? Or, la désinence on en hébreu désigne le superlatif. Comme par exemple, Elion, Tarton. Vous connaissez? Non, Tarton désigne des mais enfin, Elion. Vous voyez, donc, on peut considérer le mot Adon comme le superlatif de, comme le superlatif, justement, de Ed, enfin, comme le superlatif du mot de Adam. Et c'est la notion, si vous voulez, qu'il y avait dans l'ancien français, enfin, en tout cas dans le latin, pas dans le mot de magistrat, mais dans le mot de magistère. Bon. Et alors en hébreu, c'est une nuance bien précise, c'est l'idée de l'engendreur, celui qui a fait que j'ai pu exister. Et vous avez effectivement dans la Tfila, chaque fois que vous avez le mot de Adon, c'est toujours Adon Haneshamot, ou Adé la Tolado. Vous voyez, ça vous aidera mieux à comprendre le sens. Bien. Non, ça c'est Eden, le sort, la base. Alors, ce que je veux dire, c'est un autre mot, ça n'avait pas le val, il y a à l'heure de l'autre nous. Écoutez, je vais donner toute une série de mots qui sont basés sur la même racine fondamentale Aleph Dalet. Ils ont tous la même notion générale en hébreu, une famille de mots hébraïques. Vous avez par exemple le mot de adhérer, qui signifie une tira. Adhérer, c'est-à-dire fort. Vous avez donc le mot de Eden, Aleph, pas avec Aïm, pas l'Eden. Eden, qui veut dire le socle. Et vous avez le mot de Adar. Et le mot Adam, le mot Adam. Alors la racine Ed en hébreu signifie une force, pas dans le sens de koa, pas mais dans le sens, je ne sais pas comment vous dire ça, mais une force pure. Comment ? Adir, c'est l'adjectif. Alors vous voyez, dans cette racine fondamentale à deux lettres, Ed, il y a l'idée de force. Le superlatif de cela, c'est le mot Adam, c'est-à-dire le plus fort. Donc en français on est gêné, ça c'est pas exactement ce terme-là, c'est l'idée de celui qui est plus que moi, et grâce à qui je suis moi, c'est cette catégorie-là, Adam. Bien. C'est très exactement en ancien français le sens de Seigneur. Oui. C'est très joli ce que vous dites là. C'est très joli. C'est très bien. Parce que... Bon, alors je pourrais le citer en vote, non. Ça fait rien. Écoutez, je veux dire, parce que quand les frères de Joseph se sont opposés à lui, ils ont posé comme question, « Amasol Kinshol, il m'a l'or signor. » Et « Mosel », ça veut dire le dominateur, celui qui s'impose. Tandis que « Molé », c'est celui qui est reconnu. Effectivement. C'est ça vraiment, c'est ça. Non, pas base. Non, Adon, c'est plus le sens de faire. D'ailleurs, dans le même verset, vous avez, non seulement il y a Adon, encore le Beth Israël, encore les Beth Israël, c'est Av le Pharaon. Il est le père de Pharaon. C'est dans ce sens-là que le mot Adon. Bon, enfin, vous nous amenez trop loin. Enfin, l'idée est. Eh bien, voilà. Donc, le principe est le suivant, c'est qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en dehors de la catégorie de la soumission à une souveraineté. Et c'est effectivement cette règle que Rashi met en évidence dans son commentaire, mais avec une nuance que nous allons essayer de mieux comprendre. Rashi nous dit, le mot n'est pas écrit avec un vav, le mot de l'Erola, il est écrit sans vav, et ça met en évidence le fait que, ça signifie donc, comme nous dit Rashi, je vais te dire quel est mon nom, Mais tu t'en serviras que d'une manière telle que tu pourras le cacher. Et qu'est-ce que ça veut dire, le prononcer en le cachant? Ça veut dire qu'on ne doit pas le prononcer comme il est écrit. C'est bien clair? Il y a d'ailleurs différents degrés à ce problème. Il y a le nom qui est écrit mais non pas prononcé, le nom qui est prononcé mais non pas écrit, et il y a aussi le nom qui est ni écrit ni prononcé. Et il y a aussi le nom qui est prononcé et écrit comme il est prononcé comme il est écrit. Enfin, il y a différents livres. Mais je voudrais que nous retenions aussi le principe général. C'est que cette idée qu'il faut occulter, qu'il faut cacher cette révélation qui est donnée, et voilà, nous avons déjà un premier principe important, parce qu'on n'a pas le droit de formuler cette désignation de qui est Dieu en dehors du fait de le reconnaître comme étant souverain. Sur soi. Alors on nous indique d'ailleurs que le mot de Adonai devrait avoir un vav, le final la fin. Corrigera le mot de Adonai avec un verbe. Oui. De la manière que le mot de l'Eolam est mis, de la manière que le mot de l'Eolam, qui n'a pas de. Donc, s'il y a d'autre part, ce qu'il en résulte, c'est la valeur numérique du mot Adonai, qui est de 65, devient celle du mot de Rouchal. Bon. Ouais. Et, de toute façon, c'est comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne m'en vient que très loin. Enfin, vous voyez à peu près cette. Oui. Non, pas exactement, parce que je pourrais dire Malki, je pourrais dire mon roi. C'est pas ça. Le terme que nous traduisons par roi, le mot de Melech, c'est une catégorie de souveraineté qui n'existe que si je la reconnais. Tandis que la catégorie qui est indiquée par Adon, elle est souveraine sur moi, que je la reconnaisse. Et en disant Adonai, c'est là que je la reconnais. Mais ça ne marche pas avec Melech, parce que le mot de Melech lui-même implique une catégorie de souveraineté qui n'existe que si elle est reconnue. Bon. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui. Mais en ayant déjà invoqué le nom de Adonai. On dit Baruch Hata Adonai, Eloheinu, Melech Haolam. Oui. 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 Mais ce n'est pas du tout un nom de Dieu. C'est sans des attributs. Celui dont on parle, on dit qu'il est Abinu Melech. Je veux dire que le problème est pourquoi c'est le mot de Adon qui a donné le mot de Adonai, un des noms de Dieu, et non pas le mot de Mel. Hein? C'est-à-dire la définition, la notion n'est pas exactement la même.
Chaque mot de la Torah est le nom de Dieu caché.
D'autre part, oui.
Comment peut-on comprendre le mot Racha ou le mot Ra?
Écoutez, je vais vous dire, non, mais c'est pas vous. Je ne réponds qu'à vous, alors vous allez profiter. Et il y avait. Vous savez qu'il y a eu une controverse une fois entre les Rafidim et les Nipnagdim. Hein? Alors les Nipnagdim. Enfin, c'est une anecdote, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Les Nipnagdim reconnaissaient comme autorité que l'autorité de la Radan, tandis que les Rafidim ne reconnaissait comme autorité que l'autorité de la sadique. Hein? La différence, c'est que la sadique pourrait être aussi rabbin, alors que le rabbin, en fait. Alors, les Nagdim disaient, qu'est-ce que ça veut dire rabbi, hein? Alors, rabbi, ça veut dire roche de l'Israël, le chef des enfants d'Israël. Alors, le Khatidim leur répondait, qu'est-ce que ça veut dire rabbi? Ça veut dire rare béné à ceux. Bon, en fait, c'est une anecdote. Je pense que vous avez entendu la réponse. Alors regardez ce qu'il y a dans la charrette et dans la. Bon. Alors, revenons à l'autre question. Mélère, c'est le mot de Mélère, étymologiquement, si vous voulez, c'est le chef de guerre. C'est le Mélère. Mais non, c'est celui qui marche devant. Et vous savez que ce n'est resté que dans l'armée israélienne. Les officiers disent, suivez-moi. Et c'est très exactement le terme de rex en latin, puisque rex, vous avez un diminutif de rex qui vous montre la véritable racine ancienne en latin, c'est régulus, qui signifie le roi. Et en hébreu, régul, c'est le pied, c'est pas une raison. Mais enfin, il est bien évident que ça veut dire le conducteur. C'est celui qui marche en avant. En latin, vous avez la notion de règle. La règle. Le régulateur. C'est tout à fait le mot italien, le duc. Et puis le duc en français. Là, ou bien le duc en gaulois. Bon, celui-là, c'est le guide à marcher. Bon, alors, nous reverrons à notre question. Maintenant que nous avons compris la règle, enfin le principe, la raison pour laquelle ce mot se cache et halem, c'est-à-dire nous en faire de lui prononcer, corriger ce bien, essayons de le comprendre dans les termes même. Hein. C'est-à-dire que, et finalement la chose est assez simple. Vous avez bien vu dans Rashi, n'est-ce pas, le mot de Zeshemi le Alem, ou Zeshemi le Olam, mais qui est écrit Zeshemi le Alem, voici mon nom pour le cacher. Alors, au fond, le sens littéral, ça veut dire voici mon nom permanent, ce que je suis de toute éternité. Hein? Mais il y avait Zeshemi le Dordo, et voici la manière de m'invoquer à chaque génération. Et Rashi met en évidence la règle que c'est écrit, c'est-à-dire la forme cachée, celle qui est permanente, est écrite. Et la forme qui est invoquée n'est pas la même, et la forme qui est invoquée, c'est le mot Adonai. Alors les deux enseignements sont parallèles. C'est-à-dire dans la première partie de la fin du verset, tel est mon nom à jamais, Dieu a expliqué à Moïse comment il fallait écrire ce nom-là, c'est-à-dire le cacher, puisque ce n'est pas ainsi qu'il est prononcé. Et dans la deuxième partie de la fin du verset, il y a indiqué comment il faut le prononcer, c'est-à-dire de la manière dont Abraham, Isaac et Jacob ont reconnu sa souveraineté. Voilà donc les deux niveaux qui apparaissent là. Bien, je voudrais quand même que nous comprenions mieux la différence entre le nom qui est écrit et qui n'est pas lu, et le nom qui, par lequel cela est lu. De cette sorte que nous comprenions quel est le contenu du message que Moïse va leur donner à cette génération. C'est-à-dire qu'il veut leur parler de celui qui est Dieu, et donc je vous lis les lettres sans les prononcer, c'est Yod qui est marqué. Mais il leur dit, il leur donne, si vous voulez, sous le mot de Adonai. Ça signifie donc qu'il y a obligation des enfants d'Israël de reconnaître Dieu comme souverain, de telle sorte que la libération d'Égypte soit possible. Au fond, si vous voulez, d'une autre manière, de s'identifier comme vraiment les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque le verset lui-même dit: celui qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est bien clair. C'est-à-dire que de la même manière qu'Abraham, Isaac et Jacob ont accepté la souveraineté de celui dont il est parlé, bien de la même manière, vous avez accepté sa souveraineté de telle sorte que la sortie d'Égypte soit possible. Alors on pourrait se demander, si vous voulez, quelle différence il y a entre les deux notions. Puisque c'est bien Dieu tel qu'il est désigné par le premier terme, qui a été reconnu comme souverain par les patriarches. Et pourtant, d'après l'explication de Rashi, nous voyons que l'un désigne, si vous voulez, l'éternité, c'est-à-dire ce que Dieu est en lui-même, quelle que soit la génération où il est invoqué, alors que l'autre désigne au contraire la manière dont il est invoqué dans telle ou telle génération différente. Eh bien, voici l'explication qui peut en rendre compte, et qui est la suivante. Vous avez comme expression de la fin du verset, de génération en génération, les beurs d'or. Alors effectivement, entre Abraham, Isaac et Jacob, il y a déjà trois générations. Ça veut dire, voici comment mon nom a été invoqué, de génération en génération, par Abraham, par Isaac, par Jacob. C'est-à-dire, Isaac a évoqué le même nom que son père Abraham, et Jacob, qui est le troisième, a aussi invoqué le même nom. Lequel? Celui qui est prononcé, c'est-à-dire a reconnu Dieu comme étant son souverain. Et par conséquent, c'est aussi ce que les Hébreux, en ce temps, en ce moment de la sortie d'Égypte, ont à faire. C'est-à-dire il y a un nom permanent, celui qui est écrit mais qui n'est pas lu, il y a d'autre part la catégorie à laquelle, à chaque génération, ce nom doit être invoqué. Et nous avons compris que selon la règle, cette catégorie, c'est le mot Adonai, c'est-à-dire reconnaître la souveraineté de Dieu. Or, nous voyons même que dans l'expression qui est désignée par le mot de Zéfer, et voici comment on me mentionne de génération en génération, cette expression est donnée par le verset sous la forme suivante: celui qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire qu'il y a déjà là trois générations. Tu comprends? Bon. Alors, quel est l'essentiel du message que Moïse allait apporter? C'est qu'il n'ajoute pas une quatrième. C'est-à-dire que nous n'avons pas ici l'expression qu'au fond ils attendaient et qui serait, si vous voulez, analogue à celle-ci, Dieu de Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, au fond, il demandait un message de cet ordre. Nous connaissons le Dieu d'Abraham, nous connaissons le Dieu d'Isaac, nous connaissons le Dieu de Jacob. Et si toi, tu viens nous annoncer, au nom de ce Dieu, que le temps est venu de réaliser la sortie d'Égypte, alors comment se nomme le Dieu de Moïse? Et Moïse est chargé de leur répondre, eh bien, le Dieu duquel je vous parle, c'est celui d'Abraham, celui d'Isaac, celui de Jacob. C'est-à-dire qu'ils sont renvoyés à la fidélité que les patriarches ont eue, et donc à cette nécessité de s'identifier en filiation, si vous voulez, de façon authentique, comme fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a donc, si vous voulez, l'indication suivante, jusqu'à la fin des temps, Dieu sera toujours invoqué comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que c'est bien compris? Ça veut dire le message qu'il donnait là, c'est que bien entendu, ils avaient réclamé de lui le nom que Dieu portera à la fin des temps, c'est-à-dire au fond, il y a la dernière génération. Et à ce moment-là, ça aurait pu être une expression analogue à Dieu de Moïse, par exemple. Simplement pour situer le personnage qui aurait été celui d'une révélation nouvelle par rapport aux effets des esprits et d'ordre. Alors le fait que nous voyons déjà, c'est dans l'expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, il y a trois générations. Et le fait que le contenu même diversé dit, et pendant toutes les générations jusqu'à la fin des temps, c'est ainsi que mon nom sera invoqué, c'est donc une manière de la faire comprendre.